Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salut, c'est Thomas Rojek. Jordan, Aurélie, Nathanaël, Damien, Nicolas, Vanessa. Toutes les semaines sur les réseaux sociaux, je croise de nouveaux prénoms, de nouveaux visages, tuméfiés, abîmés. Des âges, des villes, des parcours différents pour un résultat identique. Tous ont été agressés parce qu'ils sont homosexuels. C'est dur de se dire qu'en 2018, un climat de violence homophobe est en train de s'installer dans notre pays. Alors comment en est-on arrivé là? Et surtout, est-ce que c'est pas le résultat de 20 années d'irresponsabilité politique, d'une installation, d'une normalisation dans le débat public, d'un discours homophobe qui légitime la violence? Ce sera notre question du jour. Bienvenue dans Programme B.
Si je porte plainte, c'est avant tout pour que cette agression soit comptabilisée.
Marion Châtelain est journaliste à Têtu. Elle a beaucoup écrit sur les violences homophobes et cet été, elle s'est retrouvée elle-même victime d'une agression. On a lu son témoignage, ça nous avait marqué. On l'a invitée à venir nous raconter son histoire et la façon dont elle perçoit le climat ambiant.
Alors c'était un soir de semaine, un mercredi soir si mes souvenirs sont bons, fin août. Je dînais avec ma copine dans le quartier, dans le 19e arrondissement, le quartier de Jaurès. Et puis on sort du restaurant, on avait bien mangé, on se fait un bisou. Et là un homme attablé en terrasse, donc on était juste sur le pas de la porte en fait de sortie au niveau de la terrasse. Et un homme nous dit « Ah non, là faites pas ça devant les enfants ». On lui répond, on lui dit « Mais pourquoi vous dites ça et tout ?» Il dit « Ah non, non, là, franchement, allez à l'hôtel, faites pas ça dans la rue, pas devant les enfants, c'est dégueulasse. » Puis là, il commence à s'énerver tout seul. Et puis, bah, nous, on lui dit d'abord de se taire. Et le ton monte assez rapidement. Il se met, en gros, à nous insulter. Des serveurs du restaurant sortent, mais ne font rien. Et ça rameute, en fait, des gens qui viennent un peu regarder ce qui se passe. Un couple d'hétéros qui était aussi installé en terrasse se lève. Et là, font quelque chose de vraiment qu'on a trouvé hyper mignon. Ils se roulent un énorme patin devant ce monsieur et lui disent « Mais en fait, t'es qu'un tocard, t'as rien compris à l'amour et laisse-les tranquilles.
Ouais. »
Voilà, le ton monte. D'autres personnes autour, donc ça rameute ces autres personnes qui se mettent aussi à regarder, à un peu insulter. Donc moi, là, j'ai dit...
À l'insulter lui ou à vous insulter vous?
Non, nous, à se mettre à aussi de concert ouais. Avec cet individu-là. Et bah là, on s'est dit, bon, voilà, stop, on traverse, on se prend dans les bras et je le vois, j'ouvre les yeux et je le vois, en fait, qui sort de la terrasse, qui marche et qui parle assez fort et en nous regardant. Il crache encore une fois dans notre direction. Moi, là, j'étais tellement énervée, je lui fais un doigt d'honneur, quoi. Bon, voilà, j'étais vraiment, je me dis, j'ai deux solutions, soit je baisse le regard et je m'en vais.
Oui.
Et du coup, moi, j'ai l'impression de le laisser dans son bon droit. Soit, faut que je réponde parce que là, voilà. Et en fait, c'est ça qui a déclenché l'agression physique, une fois l'agression, enfin, en plus de l'agression verbale.
Ouais.
Et donc là, vraiment, il se met à marcher d'un pas assez soutenu vers nous. Et là, il vient, en gros, il veut venir me frapper, quoi. Et là, il était vraiment très énervé. Il me dit, non, mais je vais te violer, sale lesbienne, tu vas voir ce que c'est. Donc, moi, là, j'avais switché. Je me suis dit, bon, ça suffit, je vais pas me laisser faire.
Ouais.
Et je lui dis, bah, vas-y, viens, je t'attends, quoi. Si t'as que ça à faire avec ta femme et tes enfants en terrasse, vas-y, je t'attends. Et donc là, ça l'énerve encore plus, il se débat, il me fout une gifle dans la foulée.
Ouais.
Là, ma copine s'énerve beaucoup, essaye de se jeter sur lui, moi je la retiens. Et en fait, dans le même temps, il me fout un coup de poing dans la mâchoire. Et donc là, moi j'ai un peu vacillé, je me suis dit, oh, ça y est, là c'est... Ça y est, je me fais frapper, ouais. Attention. Et là, j'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je veux dire, en 30 secondes, tout ce petit monde est parti. Moi, j'étais complètement
choquée.
Je savais, enfin là, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, deux minutes après, la police est arrivée.
Mmh.
On a porté plainte le lendemain dans le commissariat du 19e arrondissement. Et ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est vrai que sur le coup, moi je me suis dit, si je porte plainte, c'est avant tout pour que cette agression soit comptabilisée, pour que cette agression rentre dans les chiffres, pour qu'on puisse savoir où en est le nombre d'agressions homophobes, LGBTphobes en France chaque année.
Deux mois après, parce que là on enregistre deux mois après cette agression, vous en êtes où de votre perception de ce qui s'est passé? Quelles traces ça a laissé, au-delà des traces physiques, psychologiquement ça a laissé quoi comme trace?
C'est sûr que se faire frapper pour ce qu'on est, ça laisse des traces, j'ai presque envie de dire ad vitam. Je dirais qu'il y a un avant-après. Il y a un avant, je me fais pas emmerder dans la rue, enfin je me fais pas agresser physiquement, je me prends des remarques insidieuses.
Ça m'est déjà arrivé,
oui, mais j'ai presque envie de dire, c'est presque commun dans la vie d'une femme lesbienne à Paris, hein, franchement. Mais là, le fait de m'être vraiment fait frapper, j'avoue que ça a laissé quand même... Ça me marque, et je pense que ça me marquera toujours, et ça change ma perception de la rue, de l'espace urbain. Ça me fait comprendre que, malheureusement, aujourd'hui, en 2018, les personnes homosexuelles, transsexuelles, bisexuelles, etc., enfin, l'acronyme LGBT, toutes ces personnes-là ne sont pas safe, et quelque part, l'espace urbain ne leur appartient pas. Et c'est vraiment une réflexion que j'avais pas auparavant, que j'ai maintenant, en me disant il peut m'arriver quelque chose si je tiens la main de ma copine, il peut m'arriver quelque chose si j'embrasse ma copine dans la rue, et puis aussi tout simplement le fait de m'être fait frapper pour ce que je suis, enfin c'est chiant quoi de se dire ça, enfin on fait rien, on vit, on se fait frapper, bon, ça c'est plus de l'ordre du psychologique, de me dire bon bah ça y est, je suis un peu passée de ce côté-là, de la force, j'ai presque envie de dire, mais ça y est, je fais partie de ces gens-là, ça m'est arrivé, et c'est un peu, c'est vrai que ça m'embête un peu d'avoir à me dire ça, mais voilà.
Comment ça a fait évoluer votre perception du climat la plus générale, on va dire, autour des violences homophobes qui sont récurrentes, qu'on voit très souvent dans l'actu, qui reviennent très souvent sur les réseaux sociaux? Il y a eu beaucoup de témoignages encore ces derniers mois, ces dernières semaines. Comment ça a fait, vous, évoluer votre perception de tout ça?
Alors, comme moi, j'avais commencé à Têtu fin juin. Et en fait, il se trouve que depuis mon arrivée à Têtu, depuis fin juin, j'écris quasiment toutes les semaines sur une agression homophobe. Là, ça m'a fait un petit choc déjà. Avant moi de me faire agresser, je me suis dit, c'est quand même dingue. Là, toutes les semaines, on écrit, il se passe quelque chose, quoi. En France, que ça soit à Paris ou ailleurs, il se passe quelque chose. Et ensuite, je pense que j'ai pris conscience en arrivant à Têtu de l'importance du phénomène et d'une certaine forme de recrudescence des agressions. Et je me suis dit, bah, ça peut arriver, ça peut m'arriver. Et effectivement, le fait que ça me soit arrivé me fait dire que ça peut arriver à n'importe qui, quoi, que c'est pas juste réservé à l'autre, à autrui. Ça peut être moi, ça peut être tout le monde dans la rue. Et du coup, ça met vraiment en pleine gueule cette recrudescence. Et mon travail de tous les jours fait que je me rends vraiment compte de cette augmentation et de cette visibilisation des agressions.
Est-ce que selon vous, la polarisation de la parole politique autour du PAX d'abord, puis du mariage gay, puis de la PMA maintenant, parce que ça fait partie des sujets qui reviennent dans l'actu en ce moment, depuis donc à peu près on va dire une vingtaine d'années, toute cette radicalisation du discours politique a un impact concret sur ces violences?
Oui, ça a un impact concret, pour moi c'est simple, ça légitime une parole.
Oui.
Donc à partir du moment où des personnes publiques, qu'elles soient donc politiques, en tout cas médiatisées, qu'on voit assez souvent dans les médias, qui sont sur les plateaux télé, tiennent des propos LGBT-phobes, légitiment cette parole dans la société française. Ça légitime. Donc quelqu'un qui va entendre ça sur un plateau va pouvoir se dire, voilà, si lui le dit, moi aussi, je vais le dire, sans aucun problème. La recrudescence des agressions est liée forcément à cette parole qui est plus abondante et qui est en plus de surcroît légitimée.
Une fois qu'on a posé ce constat, reste le point crucial des responsabilités dans la mise en place de cette atmosphère de violence. Pour faire le point, on a tenté notre chance du côté des politiques, personne n'avait trop envie de s'aventurer sur ce terrain. Alors on s'est tourné vers un spécialiste, Daniel Borio, juriste, chercheur associé au CNRS, incontournable sur la question puisqu'il a même écrit le « Que sais-je » sur l'homophobie.
Il y a eu un effet de retour du bâton, on peut dire, parce que je crois qu'en 20 ans, si on prend le premier débat sur le PAX, et on imaginait que tout s'est ressorti en 98-99, quand la loi a été adoptée.
Ça aurait été une sorte de, va dire, de vertu expiatoire un
oui,
peu.
Où en fait, effectivement, on pouvait à peu près dire, tout le monde a pu dire ce qu'il pensait de l'homosexualité, des couples homosexuels, des familles homoparentales. On a à peu près tout entendu, à la fois avec un discours sophistiqué, psychanalytique, avec un fondement anthropologique, en parlant de l'ordre symbolique, de fondement anthropologique de la parenté. Bon, pour dire que bon, si les Pax étaient adoptés, ça serait à peu près la fin de la civilisation, que ça amènerait donc à une désintégration sociale. Bon, ça a été à peu près tout dit. Des choses qui étaient assez surprenantes, à des choses qui étaient bon, beaucoup plus concrètes, mais en tout cas, on imaginait qu'il y avait eu un effet un peu, effectivement, de faire sortir tout l'inconscient homophobe, on peut dire, de la société française. Et on voit qu'en 2013, en fait, à l'époque du mariage pour tous, tout est réapparu. Oui. Évidemment, c'était plus Christine Boutin, c'était Frigide Barjot qui avait mené un peu dans la campagne les manifestations dans la rue avec la manif pour tous. Et là, il y a eu un changement du discours, parce qu'effectivement, entre-temps, il y avait eu un dispositif de lutte contre les discours d'haine et l'injure homophobe. Donc, ils se sont, la manif pour tous a bien fait de ne pas ouvertement parler contre le homosexuel. Bien au contraire, à chaque fois, on s'est gardé bien de dire que ce n'était pas des manifestations contre le couple homosexuel, mais qu'il s'agissait d'une défense de la famille, etc. Mais c'était très, très violent. Et à certains égards, c'était peut-être plus violent, puisqu'en fait, c'était plus sournois. Et on a vu réapparaître à peu près tous les mêmes arguments, un peu plus masqués, mais avec beaucoup plus de gens dans les rues, dont ça en 2013. Donc vous voyez, aujourd'hui, on voit une recrudescence de la violence homophobe, à la fois discursive et dans les faits, que ce soit la discrimination, que ce soit la violence physique, que ce soit l'injure. Et on s'est dit que finalement, en 20 ans, on a beaucoup avancé sur le plan juridique, oui, avec surtout les dispositifs d'égalité et des luttes contre l'homophobie et d'égalité à la fois des couples homosexuels et des familles homoparentales. Et, mais tout se passe comme si les avancées juridiques, c'est payé cher par une sorte de régression sociale et délibération à la fois de la parole homophobe et de l'agression contre les supposés homosexuels. Parce qu'enfin, je crois que les gens ne savent pas qui est homosexuel et qui ne l'est pas. Mais enfin, en tout cas, il y a ce type de violence.
Comment vous l'expliquez, vous, cette dichotomie, on va dire, entre une avancée juridique et cette reculade sociale, sociétale ?
En fait, c'est un peu partout qui se passe comme ça. Il y a un effet retour du bâton du fait de la visibilisation. L'homosexualité, elle est tolérée. Je crois qu'elle est encore tolérée dans nos sociétés, à condition qu'elle demeure dans l'ombre, dans les silences. Dès lors qu'elle émerge à la surface, dès lors qu'elle prétend une équivalence avec la sexualité dite normale, dans l'hétérosexualité, je pense que cette équivalence à la normalité, cette espèce de normalisation, à certains égards, de banalisation de l'homosexualité par le mariage, par le Pax, par l'adoption d'enfants, par maintenant l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, fait que pour beaucoup des gens, cette équivalence, cette mise au même niveau rend la situation intolérable. Autrement dit, l'homosexualité, elle est supportée dès lors qu'on ne la voit pas. Et en plus, si on la voit dans les institutions, c'est-à-dire dans la loi, pour beaucoup des gens, c'est intolérable, c'est insupportable. Il y a une violence à la fois dans les mobilisations, puisqu'en fait, c'est assez étrange que 20 ans après le Pax, on annonce encore des mobilisations contre la PMA. Bon, on s'est dit, mais enfin, mais jusqu'où on va aller, ça. On a tellement mobilisé, on se demande si c'est une question si centrale pour la France et pour l'Europe de continuer à vouloir priver à des centaines ou quelques milliers de familles d'accès à la parenté. Mais en fait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. Enfin, c'est qu'on n'efface pas des mille ans d'histoire aussi rapidement.
Est-ce que, selon vous, la classe politique a sa part de responsabilité dans ce climat actuel qui s'installe de violence, même, on peut le dire ?
Je ne sais pas. J'ai un peu, vous voyez, je crois que la classe politique, c'est finalement à l'image de nous-mêmes. Enfin, la classe politique, c'est pas des martiens qui arrivent comme des scoops volantes qui sont imposées à nous. Non, la classe politique, c'est nous-mêmes. Ça émerge de nous, c'est les résultats, c'est le reflet de nous-mêmes. Donc, je crois que, oui, il y a eu de responsabilités, mais enfin, c'est certaines maladresses. Enfin, je pense par exemple que François Hollande a trop fait traîner le débat. Il aurait pu faire voter de la loi beaucoup plus rapidement, d'autant plus que c'était un engagement sentiments qui étaient clairement exprimés. Et donc, bon, c'est tout cette espèce d'audition des centaines et des centaines de personnes, des débats de partout, ça produit un effet qui n'était pas peut-être le fait voulu. Et au contraire, ça a permis à une droite radicale qui était un peu désarticulée après les élections et la perte donc, de la présidentielle, à une droite radicale et à une droite plus modérée, de s'aligner derrière une droite plus radicale, comme si les questions sociétales c'était devenu les questions donc qui pouvaient structurer à des partis de droite, et donc ça a donné cette possibilité. Donc de ce point de vue, je pense que c'est plutôt une maladresse de François Hollande. Et puis aussi, lui, il n'a pas su non plus trop défendre. Souvenez-vous, quand il y a eu la loi, la première chose qu'il dit, c'est l'objection de conscience, et à chaque fois c'était comme s'il était assez justifié, alors que on regarde par exemple l'exemple de ce qu'avait fait Zapatero en Espagne, il a tout de suite assumé en disant que c'était une loi d'avancée sociale et que l'égalité rendait l'Espagne plus forte. Enfin, il y avait vraiment une volonté d'être affiché, alors qu'on avait l'impression que Hollande n'était pas lui-même très convaincu, vous voyez, de la loi. Donc, cette responsabilité. Puis, peut-être une responsabilité politique plutôt dans le sens de ne pas trop... On croit beaucoup en France à la vertu de la loi, et en particulier la loi pénale, qui est la loi la moins efficace au monde. Mais vous voyez, on a constitué des crimes, d'infractions homophobes avec des circonstances aggravantes, en droit pénal, injures, diffamations. Ça montre que ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, parce que, évidemment, les agressions continuent. Mais on croit, il y a une espèce de... comme ça, des pensées magiques à croire que dès lors que l'on vote une loi, la loi va régler les problèmes sociaux. Bon, de ce point de vue, il y a soit une naïveté, soit un effet de manière de faire croire à la population qu'il suffit de voter des lois, qu'il suffit d'aggraver des peines pour que le problème soit résolu. Alors, de ce point de vue, je pense qu'il y a une responsabilité politique, mais dans le sens plus profond, c'est-à-dire quelle politique on mène pour la société. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais été sollicité par Jacques Lang quand il était ministre de l'Éducation, ça fait longtemps. Hein. Donc en fait, il m'avait demandé, à l'époque j'ai travaillé sur ces questions, j'ai préparé donc un certain nombre d'ouvrages, j'avais surtout travaillé avec les autorités canadiennes qui avaient mis en place des programmes de prévention de l'homophobie à l'école. Et lui, c'est le premier qui décide de mener ses combats au cœur du problème, c'est-à-dire l'éducation. Le problème, c'est que finalement, ça n'a pas eu une continuité, il y a eu beaucoup de reculades, que finalement, ce que lui, il avait proposé a été tout de suite contré à l'intérieur même du parti par d'autres ministres, donc ça a été tout de suite considéré comme un thème qui était trop sensible.
Ça, c'est le combat qu'il va falloir mener pour éradiquer ou en tout cas faire diminuer l'homophobie dans la société française. C'est le combat qu'il va falloir porter dans les années à venir, plus d'éducation.
Vous voyez, moi je pense que l'homophobie est un thermomètre. C'est un thermomètre de nos sociétés, et les sociétés où il y a de l'homophobie, du sexisme, de la xénophobie, c'est des sociétés avec un degré de démocratie très bas. Plus il y a la démocratie, plus il y a un peuple éduqué, donc plus il y a le débat démocratique et les valeurs donc de la démocratie, de l'égalité, de la tolérance, etc., moins il y a du sexisme, de l'homophobie, et finalement de la manière dans laquelle une société traite ses minorités, c'est vraiment le révélateur de la qualité de la démocratie de cette société. Alors, moi je pense qu'on ne peut pas dissocier l'homophobie du sexisme, puisqu'en fait l'homophobie vient jouer un rôle, si vous voulez, un peu de gendarme de l'identité, et en particulier de l'identité masculine. Parce que quand on voit, j'ai regardé les données de l'Observatoire de la délinquance, moi-même je travaille avec beaucoup de banques de données juridiques, donc je vois passer beaucoup de décisions de ce qui arrive devant les tribunaux. On voit que les agresseurs sont plutôt les hommes. Il y a aux majorités, donc on voit qu'il y a 80% d'hommes qui agressent. Les hommes sont beaucoup plus... Et les hommes qui ont entre 18 et 40 ans. Donc, vous voyez, c'est aussi beaucoup d'adolescents. Et il y a aussi des hommes qui agissent surtout en bande. Il y a ces phénomènes. Donc, comme si, effectivement, le fait de faire donc, une agression homophobe permettait de consolider l'identité masculine. C'est comme si il fallait passer par cette lutte contre sa propre féminité, en quelque sorte, pour montrer qu'on peut agresser quelqu'un qui a des traits qui sont considérés comme des traits féminins. Donc, en fait, l'homophobie homophobie joue ce rôle-là un peu de, comme les gendarmes de l'identité masculine. Comme si, effectivement, être un homme impliquait un travail de construction sur soi et des luttes contre sa propre féminité, contre la femme qui peut être en nous et contre l'homosexuel qui peut être en nous pour se débarrasser. Et cette manière, c'est la violence contre l'autre qui nous reflète, en quelque sorte, comme un miroir, ce que nous ne voulons pas être, mais qu'en quelque sorte, nous sommes.
Comment éduquer à la tolérance? C'est une toute autre question qu'on ne manquera pas de traiter, j'en suis sûr, mais ce sera dans un prochain épisode. Pour ce qui est de celui du jour, merci à Marion Châtelain et Daniel Borillo pour leurs réponses. Si vous voulez prolonger cette réflexion, je vous invite à écouter l'épisode numéro 5 de notre podcast Miroir Miroir, qui traite de la représentation de l'homme gay dans la pop culture. Programme B, c'est une émission de Binge Audio préparée par Lauren Bess, réalisée par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire, et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.